BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. On va parler du Brexit. Ça se complique de plus en plus avec l'Écosse qui dit que la suspension du Parlement est illégale. Angela Merkel qui dit qu'on pourrait trouver un accord. Les Espagnols qui pensent qu'on ne pourrait pas en trouver. On va en parler dans un instant avec Hervé Mariton. Il est le président du Conseil franco-britannique. Hervé Mariton, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Ensuite, on parlera justement de cette nouvelle Commission européenne. On parlera du 11 septembre. Ça sera avec Dominique Moisy, les géopolitologues et puis conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Et puis ensuite, allez, on parlera de GAFA, plateforme et puis surtout de l'Argus, puisque mon invité sera Antoine Joutot, qui est le directeur général de Le Bon Coin. Et mais tout de suite, bien sûr, les infos, c'est avec Étienne Braque.
Bonjour Edwige, bonjour, bonjour à Étienne. Tous. Et on commence avec ces informations que vous apporte BFM Business ce matin, avec Carrefour qui étudie un rachat sur son rival Casino. Bonjour Mathieu Pechberti.
Bonjour.
Alors Carrefour étudie depuis plusieurs semaines une offre sur Casino.
Oui, le groupe Carrefour planche depuis cet été sur une offre de rachat de la totalité du groupe Casino. Alors pour le moment, rien n'a été décidé. Le groupe continue, poursuit ses réflexions, mais aucune offre formelle n'a été présentée. Mais enfin, en réalité, Carrefour espère profiter des difficultés de Casino, difficultés financières, hein, puisque le groupe Casino, en tout cas son actionnaire, qui n'est autre que son PDG, Jean-Charles Naouri, a placé toutes ses sociétés en procédure de sauvegarde parce qu'elles sont très endettées. Et Carrefour espère profiter de cette situation pour essayer de mettre la main dessus. Mais Carrefour doit d'abord et avant tout s'assurer du soutien des banques créancières de Casino qui jouent un rôle très important dans ce dispositif. Donc un dossier très complexe qui font qu'aujourd'hui, Carrefour hésite à passer à l'offensive. Et en tout cas, les réflexions se poursuivent encore aujourd'hui.
Surtout qu'il y a un nouvel actionnaire, Daniel Kretinsky, qui est donc le fameux actionnaire du monde, en l'occurrence.
Qui
vient d'arriver chez Casino. Peut-être.
Et son arrivée est sûrement pas un hasard, peut-être pour contrer les offensives, en tout cas les intentions de Carrefour, exactement.
On poursuit, Étienne.
Avec le dossier de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui revient sur le devant de la scène, puisque la Chine va exempter de surtaxes douanières certains produits américains. Les exemptions couvriront 16 catégories de produits, des pesticides aux lubrifiants, en passant par certains produits pharmaceutiques, et le tout pour une durée d'un an. Et puis sinon, les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent du côté de chez EDF, avec un titre qui avait déjà chuté de 7% hier suite à des problèmes de soudure sur plusieurs de ces réacteurs de ces centrales nucléaires. Et ce matin, on a l'autorité de la sûreté nucléaire qui annonçait avoir placé sous surveillance renforcée la centrale nucléaire de Flamanville. Une mise sous surveillance qui se traduira notamment par des contrôles supplémentaires suite aux difficultés rencontrées sur ce site d'EDF depuis plus d'un an maintenant. Sinon, on a peut-être un gros deal qui se prépare entre Londres et puis Hong Kong, puisque l'opérateur de la bourse d'Hong Kong propose de racheter le London Stock Exchange. La LSE indique qu'elle va étudier l'offre, une opération estimée à plus de 35 milliards d'euros. L'action LSE gagne plus de 11% ce matin. Et puis, du côté des marchés toujours, on a un titre qui vous dit sans doute rien. Et pourtant, Prosus va devenir la plus grande société internet européenne cotée en bourse. Son introduction a eu lieu ce matin à Euronext, à Amsterdam. Et le titre a flambé à l'ouverture de plus de 30% à 76 euros, alors que son prix d'introduction était de 58 euros, ce qui nous donne une valorisation de plus de 100 milliards d'euros. Prosus s'est investi notamment dans de grandes sociétés de l'Internet, avec notamment une participation de plus de 30% dans le chinois Tencent. Et puis on finit donc avec les marchés, avec le CAC 40 qui est plutôt bien orienté à la mi-journée, avec un CAC qui est donc au-dessus des 5600 points à 5616 points, en hausse de 0,42% avant la BCE demain. Et l'eurodoll de son côté est en légère baisse, on perd 0,22%. 1 euro s'échange contre 1,1026.
Merci Étienne, on vous retrouve bien sûr à 12h30 pour un rappel des titres dans un instant. La question du jour, bah c'est toujours un peu la même, hein, en l'occurrence, c'est le Brexit. Quel Brexit? Le Brexit est-il possible ou pas?
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Hervé Mariton, merci d'être avec nous. Donc, président aujourd'hui du Conseil franco-britannique, ancien ministre et puis maire des Républicains de Cray dans la Drôme. Hervé Mariton, le Brexit, en préparant cette émission, en une heure, j'ai eu quatre infos contradictoires. C'est-à-dire que, un Brexit est possible avec un accord. Angela Merkel qui dit on fera tout jusqu'au dernier jour pour trouver un accord. Et en même temps, on se prépare à un Brexit. Les Espagnols qui disent on ne change rien, on est sur une ligne et on s'y s'y tient. Des élections peut-être à venir, et on voit que c'est le parti de Boris Johnson qui arrive en tête de ces élections, alors qu'on a l'impression que c'est une cacophonie. Il est devant le parti travailliste. Et puis, at least but not last, vous avez l'Écosse qui dit qu'elle juge illégale la suspension du Parlement britannique. Waouh, j'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez nous aider à essayer de comprendre où est la ligne de crête ?
Donc, je vous propose de diviser vos questions en deux paquets.
D'accord.
Les deux premières questions seront le premier paquet. Est-ce que il y a matière à évolution de la discussion ou est-ce que les choses sont rigides ? Angela Merkel qui dit qu'il y a encore matière à discuter pour essayer de trouver un accord de sortie, le fameux deal, et les Espagnols qui disent non, on ne bougera rien. Aujourd'hui, la situation est celle d'un échec. Les Britanniques ne sont pas parvenus à un accord qui leur convenait, en vérité, et les Européens ont négocié, mais pas de manière parfaitement réussie, puisqu'il n'y a pas d'accord avec les Britanniques. Mmh. Or, la réalité, il faut tout de même garder ça en tête, c'est que l'intérêt très fort des Britanniques, mais aussi des Européens, c'est d'arriver à un accord. Et un hard Brexit, un Brexit sans accord, ce serait un échec pour le Royaume-Uni, avec un certain nombre de difficultés, mais ce serait aussi un échec en Europe. Ça, les Allemands le comprennent. Nous, en France, je pense qu'il faut qu'on en soit extrêmement conscient. Mm-hmm. Il y a en France un certain nombre de responsables politiques. Je pense à Xavier Bertrand, qui souligne, et en tant que président des Hauts-de-France, évidemment, il est en première ligne, qui souligne la difficulté qui apparaîtrait pour la France. Donc, faisons en sorte à la fois de maintenir ce qui est un acquis de la position européenne, une position très cohérente et très unie en Europe, mais ne nous interdisons pas de chercher avec les Britanniques les quelques marges de progrès qui permettraient d'arriver à un accord. Les Espagnols sont sur une position hyper dure depuis le début.
Un peu comme la France.
Il y a un peu Gibraltar là-dedans aussi.
Il y a Gibraltar, vous avez raison.
Et on voit bien que Michel Barnier avait trouvé un consensus en Europe, et ça, c'est une force, et bravo, en prenant l'enveloppe de toutes les revendications européennes. Les Espagnols sur Gibraltar, les Chypriotes, les bases britanniques à Chypre et les Irlandais avec ce backstop qui, du point de vue des Britanniques, pose de grandes difficultés. Donc, il y a, je pense, nécessité, il faut trouver la bonne manière de le faire, de préserver la cohésion de l'Union européenne.
Oui, on voit qu'elle est mise à mal hein, quand même là ces dernières heures.
Et l'acquis des deux années qui viennent de s'écouler, c'est qu'elle a été maintenue. Mmh. Et évidemment, à mesure qu'on se rapproche du moment limite du 31 octobre, il va y avoir un somme de débats, un somme de discussions. Il faut que ça reste maîtrisé, il faut que la cohésion de l'Europe continentale soit maintenue. Ça ne doit pas interdire de chercher des marges d'intelligence avec les Britanniques, car l'absence d'accord, ce serait à l'inconvénient du Royaume-Uni et de l'Europe, et particulièrement de la France.
Justement, je voulais lire cette phrase, la déclaration d'Angela Merkel, après ce qu'elle a dit et que je vous relatais à l'instant. Elle dit « Le fait est néanmoins qu'après le retrait de la Grande-Bretagne, nous aurons un concurrent à notre porte. » Donc, un concurrent. Donc, ça veut dire qu'il faut faire quand même attention.
Oui, et avec des différences qui parfois auront été voulues côté Europe continentale ou côté britannique, et puis parfois des différences qui s'aggraveront sans qu'on les ait véritablement voulues, sauf si on maintient après des lieux de concertation, de discussion, de coordination qui restent indispensables. Ça, il y a les stratégies volontaires, et Angela Merkel a raison de dire que les Anglais ont aussi un certain nombre de cordes à leur arc. Faisons gaffe, le Brexit, c'est pas tout gagnant pour l'Allemagne ou tout gagnant pour la France. Et puis, par ailleurs, un certain nombre de choses qui, pour la vie concrète des entreprises en particulier, je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile, peuvent devenir beaucoup plus compliquées, non pas parce que ça aurait été voulu
clair
de part et d'autre, mais parce que j'en discutais aux rencontres du MEDEF à Longchamp il y a 15 jours, je discutais avec le patron de l'AFNOR, la normalisation, comment les choses vont se faire en termes de normalisation demain. Alors ça, c'était le premier paquet de votre questionnement. Le deuxième paquet, qui est un paquet plus politique.
Oui, et politique anglaise ou écossaise ou irlandaise.
Alors, d'abord, ce qu'on voit bien, c'est que il y a, ça, tout le monde le comprend, aujourd'hui au Royaume-Uni une confrontation entre la logique parlementaire et la logique référendaire. Et les Anglais n'ont pas les outils institutionnels puissants que nous avons en France, bien utiles pour résoudre des situations de ce type, type 49-3. S'il y avait un 49-3 aux communes, l'affaire serait réglée. Pire, les Anglais, récemment, ont compliqué leur situation avec le Fixed Term Parliament. Avant, le Premier ministre à Londres pouvait décider d'élections législatives quand il voulait. Et Boris Johnson n'aurait eu, si ça avait été il y a 5 ans, Boris Johnson n'aurait eu aucune difficulté à déclencher des législatives, il serait arrivé à cette étape qu'il souhaitait. Depuis quelques années, il n'est possible de déclencher des législatives anticipées qu'avec l'accord explicite de 2/3 des membres des communes, et ça, c'est l'échec de Johnson dans son appel aux législatives. Et s'agissant de la question écossaise, là je suis prudent, parce que jusqu'à présent, en tout cas, les tribunaux, lorsqu'ils ont statué, il y a eu en particulier un jugement, ont statué favorablement à la ligne de conduite.
Là, c'est
de
la justice écossaise qui juge illégale la suspension du Parlement par Boris Johnson.
La justice écossaise, alors je n'avais pas cette dernière information, parce que la justice écossaise, dans une précédente décision, mais qui, je
pense, vient de tomber, hein,
était,
vous voyez, c'est...
dans une précédente décision, qui était une décision en référé, n'avait pas pris cette orientation-là, et vous m'indiquez donc que dans sa décision toute récente, elle prend cette décision. Donc je corrige mon analyse sur ce point. Je ne vais pas vous éclairer énormément. On a d'évidence une situation complexe en plus d'un pays dont on n'oubliera pas qu'il n'est pas unitaire. Il y a des juridictions écossaises.
La Grande-Bretagne.
Il y a le Royaume-Uni. Il y a aussi des décisions du côté de Belfast. Et puis, il y a Londres.
Là où ça se complique, parce qu'on voit bien qu'éventuellement, un nouveau délai pourrait être négociable s'il y a des élections à venir en Grande-Bretagne. Bon. Déjà, ces élections qui sont appelées par, de leur vœu par l'opposition, le leader travailliste Jeremy Corbyn et d'autres... Là, on voit qu'il y a un sondage Kantar. C'est un sondage, on est d'accord, mais qui montre que le Parti conservateur conserve une confortable avance sur le Parti travailliste. Donc, ça veut dire que les Britanniques, ils veulent quand même ce Brexit.
C'est pour ça que les travaillistes ne votent pas, en vérité, pour la dissolution aux communes. Si les travaillistes étaient dans leur logique de dire « nous voulons aller à des élections », eh bien, ils voteraient la proposition de Boris Johnson et il y aurait les élections. Sauf que les sondages, de manière assez claire aujourd'hui, font apparaître un parti conservateur qui est dans une position qui n'assure pas la victoire certaine, qui ne veut pas dire qu'il y ait de majorité très déterminée aux communes demain ou après-demain, mais qui place clairement les conservateurs en première position, pas du tout comme était le verdict des élections européennes. Ça signifie que cette demande des Britanniques à assurer le vote du référendum de 2016, cette demande reste réelle dans l'électorat britannique. Je regrette cela, j'aurais été favorable au Remain, et la plupart de mes amis étaient Remainers, mais il y a aussi un certain nombre de Remainers au Royaume-Uni, dans les milieux politiques et beaucoup aussi dans les milieux économiques et financiers, qui assument à un moment qu'il y a eu un choix du peuple britannique et que ce choix doit être respecté.
On voit que c'est difficile à accoucher. Il faut s'attendre à quelques turbulences d'ici le 31 octobre.
Nul ne sait exactement la chronique politique qui vient devant nous, ni exactement la chronique technique, procédurière, douanière, économique... financière. Je pense qu'il ne faut pas non plus aller sur des scénarios catastrophes, et je crois que chacun doit être un peu rassuré ou rasséréné sur ce terrain-là. Sur les déplacements des personnes, il y a tout de même beaucoup de choses qui ont été préparées. Les Britanniques ont beaucoup avancé sur le statut des personnes résidentes au Royaume-Uni. Et s'agissant des mouvements économiques, moi, mon hypothèse est plutôt que le lendemain, il n'y aura pas de rupture considérable par rapport à la veille, parce que, de fait, même si les choses n'auront pas été terriblement négociées en amont, de fait, il y a une espèce de matérialité des choses qui imposera des transitions.
Les entreprises,
Oui. Je veux vous dire que les Britanniques se préparent aussi très intensément parce que le Conseil franco-britannique souhaitait prendre son initiative et organiser des événements avec nos amis de l'ambassade de Grande-Bretagne ici à Paris. Et y compris en termes de locaux, les choses sont un peu plus compliquées parce que l'ambassade, très légitimement, a décidé de consacrer ses troupes et ses locaux à la préparation de la situation au 31 octobre. Et
puis les entreprises, on l'a bien vu, notamment avec le patron de Safran qui nous disait, ben, nous on fait des stocks, hein, parce que l'aéronautique va être évidemment très impactée par ce Brexit dans un premier temps. Du moins, deux questions. Hong Kong, vous avez signé une tribune pour dire qu'il ne fallait pas oublier Hong Kong. Pourquoi on oublie Hong Kong et comment vous voyez la sortie de crise à Hong Kong ? Violente ou pas ?
Je suis un homme de conviction et mon engagement politique est un engagement à droite et la droite s'est toujours honorée de défendre la liberté dans le monde. En 2019, ce sont les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Il y a 4 ans, j'avais rencontré Joshua Wong, le leader du mouvement des parapluies à Hong Kong, qui est aujourd'hui un des visages du combat pour la démocratie à Hong Kong. Je pense que c'est l'honneur de ma sensibilité politique, mais au-delà, ce serait l'honneur de la démocratie française et plus largement en Occident.
On n'ose pas pour des questions...
De s'affirmer plus fortement. N'oublions pas que nous sommes le 11 septembre. Et évidemment qu'il y a un certain nombre de prudence liée aux enjeux économiques avec la Chine. Ma conviction, y compris pour avoir pas mal réfléchi ces derniers mois aux questions de compétition et de concurrence avec les Chinois, ma conviction est que c'est en affirmant nos valeurs et en s'affirmant pour ce que nous sommes que nous pouvons aussi le mieux nous défendre économiquement.
Hervé Mariton.
Ça n'est pas en passant sous toutes les conditions que Pékin voudrait imposer. Donc oui au combat pour la démocratie à Hong Kong.
Hervé Mariton, vous allez manifester contre la PMA ou pas ?
Je ne sais pas, je ne suis pas favorable au projet de loi qui a été déposé par le gouvernement pour bien des raisons et je crois que ce n'est pas un combat de trop, qu'il y a derrière ça un vrai sujet sur quel est le rôle de la médecine. J'entendais l'autre jour ce point, il y a un désir d'enfant. Et donc la PMA, c'est là pour répondre aux désirs d'enfants. Mais si demain la médecine permet de faire le tri entre les enfants plus intelligents et les enfants moins intelligents, est-ce qu'alors le désir des parents d'avoir un enfant plus intelligent ou qui fera de meilleures études devra être satisfait par la médecine ?
D'accord, donc
cette
vous ne savez pas
question est angoissante. Je suis tout à fait opposé à ce projet de loi. Est-ce que le 6 octobre, je serai dans la rue ? Je ne le sais pas, je n'ai pas d'objection de principe au fait d'y aller. Ça dépend aussi d'agenda. Je suis maire de Cré dans la Drôme et je me dois
à ma ville. Et alors justement, on va changer
Mais ceux qui manifesteront le feront très légitimement.
Et je voulais en conclusion dire un mot, même si on doit rendre l'antenne. Vous avez fait un spectacle formidable autour du discours de Solzhenitsyn qu'il avait prononcé à Harvard. Et je conseille tout le monde d'aller voir votre spectacle parce qu'en l'occurrence, en plus, le texte est d'une modernité et ça fait vraiment un moment intellectuellement très stimulant.
La liberté et la responsabilité.
Merci beaucoup Hervé Mariton d'avoir été avec nous, donc président du Conseil franco-britannique. Dans un instant, c'est Dominique Moisy, géopolitologue, et bien sûr conseiller spécial de l'Institut Montaigne qui sera avec nous.
Du lundi au vendredi sur BFM Business, place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dose donne la parole aux experts sur les grands sujets d'actualité du jour. Politique, économie, société, internationale. Économistes, journalistes et chefs d'entreprise confrontent leur vécu et leur point de vue. Une heure d'échange constructif pour apprendre et comprendre. Et tous les jeudis, les experts du Cercle des économistes rejoignent le débat pour partager leurs réflexions sur les thématiques en question. Les experts, présentés par Nicolas Dose, du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM Business.
Oui, salut Céline, je sors tout juste de mon rendez-vous client. Je ne serai pas au bureau pour la réunion, mais je vous rejoins en ligne sur Microsoft Teams.
Ok, pas de problème, à tout de suite sur Microsoft Teams.
Microsoft Teams, l'application qui facilite le travail en équipe, gratuite pour toutes les PME de moins de 300 employés. Microsoft, partenaire de l'innovation digitale des PME en France.
Télérama Dialogue, 36 invités, 36 rencontres en public. Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction.
De Clara Luciani à Thomas Piketty, de Fari à Corinne Maziero, Télérama vous invite à retrouver des artistes et intellectuels singuliers. Lundi 23 septembre au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Programme complet sur télérama.fr en partenariat avec la MGEN.
Gérer un parc de véhicules, c'est une question de confiance. Avoir confiance, c'est utiliser un système de géolocalisation facilement depuis votre PC ou smartphone. La confiance, c'est de savoir que vos conducteurs sont en sécurité et à l'heure. S'ils sont en retard, la confiance, c'est de pouvoir en informer vos clients. Vous avez besoin de travailler en confiance ? Téléphonez au 0800 73 73 73. Verizon Connect. La gestion des flottes par géolocalisation.
Pour voir ou revoir tout BFM Business, connectez-vous sur bfmbusiness.com, rubrique replay.
C'est l'occasion pour des initiateurs, c'est le nom donné à ces acquéreurs sur ces offres publiques, de se dire, bien, il y a un effet d'aubaine, on va pouvoir acheter des sociétés qui ne sont pas suffisamment valorisées par la bourse.
Téléchargez gratuitement tout BFM Business en podcast.
Les syndicats et les salariés et la direction seront également contents parce qu'ils ont obtenu des délais.
Donc si toutes les cartes sont rebattues, ça va vraiment mettre un gros coup de pied dans la fourmilière.
Toutes les émissions, toutes les interviews, à tout moment, c'est sur bfmbusiness.com, rubrique replay.
Alors, de manière très simple, nous nous engageons à fournir un reporting bitrimestriel à nos investisseurs pour les tenir à la fois informés sur l'avancée du chantier et également sur l'avancée de la pré-commercialisation. Puisque ce sont les deux risques aujourd'hui, au moment où le financier arrive, l'investisseur arrive dans une opération, et nous tenons à en faire un reporting.
Bon, c'est un phénomène purement spéculatif, hein.
Téléchargez l'application BFM Business et retrouvez le meilleur de BFM Business sur votre mobile.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'heure H avec Dominique Moisy. Dominique Moisy, merci d'être avec nous. Est-ce que c'était il y a 18 ans, bien sûr, tout le monde se souvient de ces terribles, terribles moments et ces terribles images. C'était le 11 septembre 2001, donc à New York. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le risque terroriste reste très fort ? Est-ce qu'il est aussi fort ? Est-ce qu'il a changé de nature ? Il s'est quand même éloigné, en tous les cas, de notre quotidien.
Oui. Alors, c'est peut-être dangereux. Parce que on s'est habitué d'un côté, et on se dit que c'est derrière nous de l'autre. Alors que, fondamentalement, rien n'a peut-être changé. Y a un chiffre qui est bien entendu essentiel. Le 11 septembre, c'est 3000 morts en une seule journée. L'ensemble de la guerre en Afghanistan, c'est 2300 tués pour l'armée américaine. Donc l'ampleur du 11 septembre va rester dans nos mémoires. Qu'il y ait un nouveau 11 septembre est extraordinairement improbable. Que le terrorisme continue à nous hanter, c'est tout à fait légitime et hélas probable.
Justement, vous parlez de l'Afghanistan. On sait que, donc il y a quelques jours, il devait y avoir peut-être un accord. En tous les cas, les termes d'un accord étaient sur la table avec les leaders talibans, et que donc Donald Trump, par un tweet, a donc annulé cette rencontre parce qu'il y avait eu justement un attentat à Kaboul et avec un Américain qui avait été tué. Est-ce que ça veut dire que c'est une paix introuvable ? Est-ce que c'est un accord qui valait quelque chose ? Il y avait un attentat pendant que les talibans en discutaient la paix. Donc, est-ce que cette situation est inextricable?
Oui. Oui. En réalité, oui. Il n'y a pas de victoire possible pour les États-Unis en Afghanistan. Les négociations de paix qui ont été révélées et stoppées en même temps par le président Trump visaient à trouver le moindre mal, à trouver une sorte d'accord entre le gouvernement sur place, qui a réalisé des choses admirables. La condition de la femme afghane a profondément changé au cours des dernières années. Un retour des talibans seuls au pouvoir à Kaboul remettrait en cause tous ses acquis. On dit d'ailleurs que John Bolton s'opposait symboliquement à ce que les réunions aient lieu avec les chefs talibans aux États-Unis à Camp David. À Camp David, au moment où on allait commémorer le 18e anniversaire du 11 septembre.
Ouais. Donc, si je vous comprends bien, vous dites, parce que John Bolton, on va le dire à ceux qui n'ont peut-être pas suivi les méandres de la twittosphère de Donald Trump, a donc été limogé, le conseiller donc, diplomatique du président américain a été limogé d'un coup de tweet par son chef. Est-ce que vous êtes plutôt sur la position de John Bolton, vous, ou pas?
Non, ni l'un ni l'autre. Je pense que ce que révèle la démission forcée, le renvoi de John Bolton, c'est le fait que le président Trump n'est absolument pas un idéologue. Aujourd'hui, il est en campagne pour les présidentielles de 2020. Sa politique étrangère s'adresse aux Américains, à son noyau dur. Je veux bien être dur avec l'Iran, mais je garde l'ouverture avec la Corée du Nord, je garde l'ouverture avec les talibans en Afghanistan. Vous ne voulez pas d'une nouvelle guerre ? Moi non plus. Cet idéologue, ce faucon, il était quand même devenu gênant. Je m'en débarrasse.
Oui, d'accord. Donc on voit que ça risque de continuer. On va peut-être pas parler ici de l'Iran parce qu'il y a une actualité évidemment géopolitique extrêmement forte. Je voudrais qu'on dise un mot de cette nouvelle Commission européenne avec donc le climat, le numérique qui sont mis un peu en highlights en disant maintenant voilà on va s'occuper de ça. Ça peut être de la com, ça peut être du marketing. S'il fallait porter un jugement sur la composition, l'attribution des portefeuilles, est-ce que vous diriez que ça va plutôt dans le bon sens de Mosi? Oui.
Oui.
Pourquoi?
Je trouve que le bilan est globalement...
Le bilan de quoi?
Le bilan de cette composition est globalement très positif. D'abord à sa tête, une femme qui a l'air plus énergique, plus dynamique, plus charismatique que son prédécesseur. Ursula von der Leyen en impose davantage que Jean-Claude Juncker. Et ensuite, il y a à côté d'elle des poids lourds dont les responsabilités ont été renforcées. Le numéro 2 de cette commission, incontestablement, c'est celle qui aurait pu devenir le numéro 1, la Danoise, Margrethe Vestager. Il y a au marché intérieur, à l'industrie de défense, car c'est de ça aussi dont il s'agit, la Française Sylvie Goulard, qui est une forte personnalité et qui est très europhile. Il y a au commerce cet Irlandais qui a pris l'habitude de dire non haut et fort à Donald Trump. Donc c'est une commission plus politique, plus géopolitique, dit la présidente de la commission. Elle a réussi son examen de passage. Sa conférence de presse a fait la différence avec ce qui existait hier. Maintenant, on jugera aux
actes. Pièces, oui, aux actes. Et c'est vrai que le calendrier est extrêmement chargé. Une question un peu récurrente, là, récemment, que j'ai posée à de nombreux invités, mais j'imagine que vous allez parler sans langue de bois, Dominique. Est-ce que l'homme fort de l'Europe, est-ce que c'est vraiment Emmanuel Macron? Parce que tout le monde dit que c'est Emmanuel Macron, parce que regardez, tous les autres régimes politiques sont affaiblis, y compris en Allemagne avec Angela Merkel. Est-ce que c'est vraiment l'homme fort? C'est lui qui a passé Charles Michel là où il est, c'est lui qui a passé Ursula von der Leyen, c'est lui qui a placé Christine Lagarde, Sylvie Goulard, etc. etc. Vous partagez ce macronophile?
Oui, parce que la nature a horreur du vide. Et aujourd'hui, il y a un vide énorme en Europe. La Grande-Bretagne a disparu dans son narcissisme autodestructeur avec le Brexit. Angela Merkel est en bout de course. L'Italie et dans les méandres de sa vie politique. Donc il y a un président français qui est pro-européen, qui a une vision, une énergie exceptionnelle. Oui, il est là. Et en plus, il a retrouvé de la légitimité à l'intérieur, en ayant dépassé le problème des Gilets jaunes, en ayant une popularité qui monte. Donc il est beaucoup plus crédible sur la scène internationale, parce qu'il est redevenu légitime sur la scène intérieure.
Il y a un Conseil européen le 15 octobre, c'est là où on va fixer un peu les grandes, la feuille de route peut-être pour cette nouvelle commission. Vous en attendez quoi? Et si vous deviez la fixer, quelle serait-elle?
Non, que les gens se remettent à croire à l'Europe. Et au fond, le résultat des dernières élections au Parlement européen n'ont pas été si mauvais que cela.
Non.
On s'attendait à une poussée populiste extraordinaire. Aujourd'hui, les démocraties classiques font de la résistance. Salvini s'est tiré une balle dans le pied en Italie. Boris Johnson, qui est aussi un tenant d'une forme de populisme, ne va nulle part. Donc non, c'est les conditions sont beaucoup plus favorables au projet positif d'Emmanuel Macron. Il a eu raison de faire preuve de résilience et d'une certaine forme d'optimisme.
Sur ce rapprochement franco-russe à laquelle nous avons assisté, j'en parlais avec Jean-Baptiste Lemoine, qui est donc le secrétaire d'État auprès de Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, qui avec Florence Parly a donc rencontré ses homologues russes. Puis il y a eu la visite de Vladimir Poutine à Brégançon, etc. Est-ce que pour vous, c'est trop tôt? Est-ce que, au contraire, c'était une manière de la réelle politique, c'est de dire bon ben, on a tourné le dos à la Russie, finalement ça a servi à rien, donc maintenant autant reprendre les discussions.
Ce n'est pas trop tôt, et je suis personnellement en faveur de la reprise de ce dialogue, pourvu que l'on soit sans illusion trop grande ou sans naïveté.
Ça
veut dire qu'on ne peut pas traiter un certain nombre de questions internationales sans la Russie, qu'il s'agisse du dossier ukrainien ou du dossier syrien. Ça veut dire que tenir totalement la Russie à bout de bras, c'est la rapprocher inutilement pour nous de la Chine. Mais en même temps, ne pas se faire d'illusions, ça veut dire qu'il faut regarder la Russie les yeux dans les yeux et lui dire, écoute, on sait très bien que tu es intervenu dans mes affaires internes de manière très négative au cours des dernières années. La balle est dans ton camp. Nous sommes
prêts. On va voir les prochaines élections municipales, ça va être intéressant de suivre.
Prêts. Ce sera intéressant. Nous sommes prêts à tout. J'ai fait un débat il n'y a pas longtemps sur une chaîne concurrente avec Gilbert Collard et il avait l'audace de dire qu'un institut de sondage dont j'ignorais le nom trouvait que la liberté, les libertés, étaient beaucoup plus grandes en Russie qu'en France. Mmh. Je crois qu'il faut lutter contre cette forme de fake news qui est encouragée par la Russie de Poutine. Mmh. Donc oui au rapprochement, mais pas à n'importe quelle condition et pas dans la naïveté.
Merci beaucoup Dominique Moisy d'être venu ici. Le retour de Dominique Moisy dans le club de l'Orache, donc conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Merci beaucoup. Dans un instant, ben, on parlera de taxes GAFA aussi, des plateformes, et puis on parlera de voitures. Mon invité, c'est Antoine Joutot, le directeur général de Le Bon Coin. A tout de suite.
Ce week-end sur BFM Business, le magazine de la transformation numérique, 01 Business Forum Lebdo. Frédéric Simotel interroge les dirigeants sur la transformation digitale de leurs entreprises. Experts et chroniqueurs décryptent les recettes pour faire du digital un nouvel axe de croissance pour le business. Technologie, tendance, usage, 01 Business Forum Lebdo, l'émission qui vous accompagne pour réussir votre transition numérique. 01 Business Forum Lebdo, présenté par Frédéric Simotel, tous les samedis à 15h30 et dimanche à 18h sur BFM Business. BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrier.
Il est numéro un partout, mais il veut encore se renforcer. Antoine Joutot, merci d'être avec nous. Le patron du Bon Coin, merci d'être là.
Bonjour.
En plus, vous avez en tous les cas, pas peut-être, mais racheté l'Argus. Vous nous direz pourquoi, comment. Mais pour l'instant, retour de l'actu, Étienne Braque. Étienne, c'est à vous.
Ah, on commence avec ces informations que vous apporte BFM Business ce matin. Carrefour réfléchit à faire une offre sur le groupe Casino. Selon nos informations, Carrefour planche sur ce dossier depuis plusieurs semaines maintenant. Carrefour a réagi ce matin dans un communiqué en précisant qu'il n'y avait pas de projet d'offre sur la table. Dans l'actualité, on a également ce dossier de la guerre commerciale entre Américains et Chinois qui revient sur le devant de la scène, puisque la Chine va exempter de taxes douanières certains produits américains. Les exemptions couvriront 16 catégories de produits, des pesticides de lubrifiants en passant par certains produits pharmaceutiques, le tout pour une durée d'un an. Une annonce qui intervient avant la rencontre entre le vice-premier ministre chinois et le représentant au commerce américain prévu à Washington au mois d'octobre. Et puis, les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent du côté de chez EDF. Après avoir perdu plus de 7% hier, le titre EDF a un petit peu de mal à redécoller puisque ce matin, l'autorité de sûreté nucléaire a annoncé avoir placé sous surveillance renforcée la centrale nucléaire de Flamanville. Une mise sous surveillance qui se traduira notamment par des contrôles supplémentaires suite aux difficultés rencontrées par EDF sur ce site depuis maintenant plus d'un an. Et puis sinon, on a peut-être un gros deal qui se prépare sur les marchés financiers puisque l'opérateur de la bourse de Hong Kong propose de racheter le London Stock Exchange. LSE indique qu'il va étudier l'offre, une opération estimée à plus de 35 milliards d'euros. Et puis, on a aussi Prosus ce matin qui s'est introduit en bourse à Euronext à Amsterdam. Le titre a flambé ce matin. Alors ce titre vous dit peut-être rien, mais c'est l'une des plus grosses introductions de l'année. années, notamment avec une valorisation de près de 100 milliards d'euros. Cette société a notamment une participation de plus de 30% dans le chinois Tencent. Et puis la publication des entreprises, notamment avec Hermès qui a publié ses semestriels ce matin, avec un résultat opérationnel qui a progressé de plus de 15%, mais le titre est plutôt stable. C'est la Chine qui continue de tracter la croissance du groupe, puisque l'Asie-Pacifique hors Japon a vu son chiffre d'affaires bondir de plus de 18%. Les marchés d'ailleurs, avec un CAC 40 qui est en hausse actuellement, on est au-dessus des 5600 points. 5618 points, hausse de 0,46%. Et l'euro-dollar de son côté est en légère baisse. 1 euro s'échange contre 1,1018.
Merci Étienne. Bon, c'est certes, ça ne se compte pas en milliards, mais c'est quand même important. Dans un instant, c'est Antoine Joutot, le patron du Bon Coin, qui rachète Argus, qui est notre invité.
Télérama Dialogue, 36 invités, 36 rencontres en public. Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction.
De Clara Luciani à Thomas Piketty, de Farid à Corinne Maziero, Télérama vous invite à retrouver des artistes et intellectuels singuliers. Lundi 23 septembre au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Programme complet sur telerama.fr en partenariat avec la MGEN.
Vous habitez Lyon ou sa métropole et voulez être informé en temps réel? C'est pour ça que BFM a créé BFM Lyon. Avec BFM Lyon, priorité au direct, actualité, météo, trafic et ville lyonnaise sur votre télé ou votre smartphone. Retrouvez BFM Lyon sur le canal 30 de la TNT et sur les box opérateurs. BFM Lyon, info, trafic et météo.
Aujourd'hui, le Parisien se met au vert. Découvrez notre numéro spécial environnement. Un reportage inédit au Groenland en première ligne du réchauffement climatique, une grande enquête sur la qualité de l'air dans les écoles. Retrouvez au fil des pages des initiatives inspirantes et les bons gestes au quotidien pour préserver la planète. Le Parisien est aujourd'hui en France, numéro spécial environnement, en vente chez votre marchand de journaux.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique. Restez informé des sujets qui vous concernent en consultant les dossiers de la rédaction. Emploi, entreprise, bourse, argent, immobilier. BFM Business, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à BFM Business sur Twitter pour commenter l'actualité économique en temps réel. Suivez la rédaction sur Facebook pour découvrir des vidéos exclusives et sur LinkedIn au plus près des besoins des professionnels. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet.
Mes amis, au secours.
L'abbé Pierre a laissé un héritage inestimable. Faites comme lui. Poursuivez son action auprès des plus pauvres, en léguant toute ou partie de votre patrimoine, en souscrivant une assurance vie ou en faisant une donation en faveur de la Fondation Abbé Pierre. Demandez une brochure ou prenez rendez-vous au 01 55 56 37 27. Plus d'infos sur fondationabbépierre.fr.
Il vous reste 3 mois pour trouver de nouveaux clients. Avec Compass, vous savez qui joindre et quand prendre rendez-vous avec des prospects. Vous avez des listes précises et mises à jour, des solutions innovantes, simples et un accompagnement permanent. De quoi devenir un champion de la prospection. Compass, K-O-M-P-A-2-S, le business efficace.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Antoine Joutot, merci d'être là. Vous avez fait l'actualité depuis lundi. Vous êtes directeur général du Bon Coin et vous avez annoncé donc le rachat de l'Argus.
Projet de rachat.
Projet de rachat. Justement, je voulais savoir où est-ce que vous en étiez, parce que projet de rachat. Vous avez signé une promesse. Vous en êtes.
Oui, c'est un processus classique. C'est-à-dire que comme nous appartenons à un groupe coté, nous avons annoncé qu'on était rentré en discussion exclusive avec le groupe l'Argus et ça devrait se finaliser d'ici quelques semaines. Donc c'est vraiment imminent. Mais voilà.
85 millions. On parle de chiffres.
C'est ce qui se murmure.
Oui, mais vous êtes là devant nous. Alors,
je ne confirme pas, je n'affirmerai pas.
Non, mais est-ce que c'est faux?
Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, d'ici quelques semaines, on communiquera précisément le chiffre, puisqu'au marché financier, nous devons toute transparence.
Oui, d'accord. La question que je me posais, c'est en fait, pourquoi racheter l'Argus? L'Argus, c'est pour les anciens comme nous, je veux dire, on connaît ça, bien sûr, c'est la référence pour toute la vente de véhicules d'occasion et les prix d'une voiture d'occasion. Mais vous étiez déjà numéro 1 de la vente de voitures d'occasion. Alors pourquoi racheter votre concurrent alors que finalement vous avez déjà une place leader?
Et je pense que vous l'énonciez, l'Argus c'est un référent dans le monde automobile et le mariage avec le Bon Coin est assez évident. Puisqu'aujourd'hui, il possède un certain nombre de savoir-faire sur la cote automobile, sur les services qu'il propose aux professionnels, aux concessionnaires. Et ils ont 92 ans d'expérience, des équipes dédiées, ce qui n'est pas forcément le cas du Bon Coin, qui en effet, lui, est extrêmement fort dans la mise en relation, dans les offres qu'on propose sur le marché de particuliers, de professionnels, avec 11 millions de Français qui tous les mois vont sur le Bon Coin uniquement sur l'automobile. Et donc si vous associez le Bon Coin et le savoir-faire et les produits de l'Argus, là vous créez un acteur leader de l'automobile en France, de l'occasion, capable de fournir des services spécifiques pour les particuliers, les aider à définir leurs prix, les aider en leur fournissant des outils transactionnels, et puis pour les professionnels, plus de data, plus d'intelligence pour leur permettre de développer leur business. Voilà, ouais. Donc un mariage de raison, mais de formidables synergies dans le futur.
Donc, synergie au total. D'abord, est-ce que tout va passer, toute cette activité-là du Bon Coin, est-ce que ça va passer sous la marque Argus ?
Non, puisque les deux marques sont très fortes. Elles sont toutes les deux très appréciées des Français. Elles n'ont pas les mêmes fonctions aujourd'hui. Le Bon Coin, sa spécialité, c'est la puissance, c'est d'être capable de rapidement
trouver
le véhicule.
Oui, mais c'est aussi la vente de véhicules d'occasion.
Oui,
idem pour l'Argus.
Argus, c'est l'expertise.
Oui, bien sûr.
De la définition du prix, c'est la connaissance des véhicules, du monde automobile. Voilà, donc les deux marques vont perdurer pour le grand public. Et elles seront associées régulièrement justement sur les deux sites. Voilà, donc on est très impatients de mettre en place ces synergies parce que ça fait de nous voilà, un géant de la data automobile qui va justement améliorer ses services, son moteur de recherche, les services pour les professionnels, tous les outils pour monitorer leur efficacité. Voilà, les synergies sont un peu infinies. On va essayer de rationaliser juste.
Oui, parce qu'il faut rationaliser, parce que sinon ça peut paraître un peu étrange. Donc les petites annonces de vente, par exemple, elles seront que sur le Bon Coin ou elles resteront aussi sur l'Argus ?
Non, les annonces resteront sur les deux sites.
Sur les deux sites,
oui.
Mais concurrents alors.
En quelque sorte, si vous voulez aujourd'hui.
Ou alors est-ce que je pourrais en faire deux pour le prix d'une ?
Quand on est utilisateur aujourd'hui et qu'on cherche un véhicule d'occasion, en général, on consulte deux sites. La quasi-totalité du temps, vous consultez le Bon Coin. Et donc l'objectif, ça sera qu'ils consultent aussi l'Argus. C'est un choix différent. C'est-à-dire que le Bon Coin, c'est un généraliste. L'Argus, c'est un spécialiste. Chez le spécialiste, c'est un vertical qui a donc tous les services d'un spécialiste, l'information sur les véhicules, l'information sur les données, les offres de financement, etc. Voilà, donc c'est permettre à tous nos utilisateurs de leur offrir un service 360.
Est-ce que c'est une démarche d'un besoin de référent, de référence, hein, donc l'Argus c'était la référence, donc vous rachetez la référence. Est-ce qu'on peut avoir ça dans l'immobilier par exemple ? Est-ce que vous pourriez racheter
Dans l'immobilier, on a déjà fait ce mouvement stratégique il y a 2 ans,
oui.
en rachetant Vendaloué, qui depuis est passé le premier site immobilier en termes de contenu.
Mais qui n'est pas une référence aussi forte peut-être ?
Donc qui est une référence plutôt dans les centres-villes.
Oui.
Et le Bon Coin est une référence partout ailleurs. Et on voit bien que l'association des deux a permis au groupe Le Bon Coin d'asseoir sa position de leader de l'immobilier en touchant 90% des agents immobiliers, en ayant plus de 60% des annonces immobilières en France et en ayant une croissance très forte, à la fois en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes d'audience. Mmh. Voilà, donc on voit bien que l'expérience qu'on a eue avec Vendraloué est bénéfique et on espère reproduire le même coup avec l'Argus parce que les perspectives et les synergies produits sont encore plus fortes, les expertises du groupe l'Argus de la technologie qu'ils ont développée sont bien plus importantes que celles qui étaient possédées par Vendraloué à l'époque.
Vous avez là 3 acquisitions depuis le début de l'année,
oui.
C'est ça ? Le 4e avec l'Argus ?
Alors 3e avec l'Argus.
3e avec l'Argus,
oui.
Il y a une 4e en cours. Est-ce que vous allez continuer cette logique d'acquisition ?
Alors cette année, je pense que les jeux sont faits, ça y est. C'est vrai que ces 3 acquisitions en quelques mois, c'est extrêmement impactant pour le groupe Le Bon Coin et puis pour le groupe Adevinta, auquel j'appartiens. Donc pour l'instant, je pense qu'on va faire une petite pause pour cette année. Par contre, on est toujours à l'écoute des opportunités possibles dans d'autres univers. Pourquoi pas regarder des acquisitions dans le marché de l'emploi.
Voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder.
Des acquisitions technologiques. Voilà, on regarde en permanence plein de dossiers. Et puis on regardera s'il y a d'autres synergies qui viendront en 2020 avec d'autres groupes. Mais pour l'instant, déjà, on va essayer d'absorber le groupe l'Argus, qui est un groupe très important, 39 millions d'euros de chiffre d'affaires, 270 collaborateurs, plusieurs sites.
Par rapport au Bon Coin, le Bon Coin, c'est...
Bon Coin, 1000 collaborateurs, oui. Ça y est, on a franchi la barre des 1000 la semaine dernière. Et puis 307 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Grosse croissance, gros EBITDA aussi. Donc le rassemblement, l'ensemble va être un bloc qui dans quelques mois réalisera un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires sur la France, c'est quand même quelque chose d'extrêmement impactant.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer votre moteur de recherche, il faut investir énormément aussi dans toutes les infrastructures
digitales? Oui, le Bon Coin, c'est avant tout un
moteur de recherche.
Nous sommes un groupe de technologie, nous sommes une plateforme, et d'ailleurs le groupe Largus va pouvoir apporter, compléter ses composants. Donc on a un ADN technologique très fort. On a plus de 200 développeurs et on continue à recruter massivement des data scientists justement pour grandir nos services. En effet, notre métier, c'est de faciliter les échanges au quotidien de nos utilisateurs, c'est-à-dire leur faciliter l'achat et la vente, et ça passe par un moteur de recherche performant qui a été changé l'année dernière et sur lequel on a dédié des ressources justement pour qu'ils puissent faire des suggestions, personnaliser votre expérience, mettre des meilleurs critères. Alors c'est peut-être pas toujours suffisant, des moyens de paiement, des moyens de livraison.
Oui, vous avez fait une campagne de pub justement un peu là autour de ça.
Oui, une campagne de pub assez en rupture avec nos communications habituelles. Plus tournée vers les biens de consommation, plus tournée vers l'univers de la mode sur lesquels on est en train aussi de grandir. C'est un univers nouveau pour nous. Et le Bon Coin est en train de basculer, le groupe Le Bon Coin est en train de basculer dans un univers plus transactionnel, avec des services de paiement, des services de livraison. C'est le virage qu'on est en train d'opérer depuis quelques mois maintenant.
Justement, mais donc tout ça, ça appelle une puissance supplémentaire de votre moteur. Donc il faut l'adapter en permanence.
Oui, c'est aujourd'hui.
C'est comme vous dites, vous élargissez le.
Il y a des évolutions qui sont faites toutes les semaines sur son moteur de recherche, qui est aujourd'hui un des principaux moteurs de recherche en France, hein, tout confondu. Mais c'est vrai qu'on lui demande aujourd'hui d'être capable de délivrer plus de pertinence sur une recherche immobilière, plus de précision, d'être capable de délivrer des suggestions. Ce qui était absent précédemment, c'est-à-dire que vous recherchez un vêtement dans une marque, on va vous proposer un vêtement connexe dans une marque proche ou dans un prix proche. Ça nécessite évidemment beaucoup de maîtrise de sa donnée et des maîtrises de ses systèmes d'information, qui est aujourd'hui notre métier. Voilà. Notre métier, c'est de gérer de l'information, des énormes données, d'où le rapprochement avec Largus, parce que nous, on a la conviction que quand vous possédez la donnée et que vous l'utilisez aussi proprement, et de manière éthique, vous êtes capable de développer des opportunités de business.
Comment est-ce que vous gagnez votre vie, en fait, Le Bon Coin ?
On gagne bien notre vie. Je disais 307 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 53% d'EBITDA. On a trois sources de revenus principales. On monétise ce qu'on appelle les particuliers à travers un modèle freemium, c'est-à-dire qu'en gros, les particuliers déposent gratuitement leurs annonces, mais peuvent acheter des options de visibilité, remonter leurs annonces en tête de liste, modifier leurs annonces de manière payante, rajouter une photo. Mm-hmm. Voilà, donc quelques euros à dépenser pour mieux se faire voir sur nos listings. On fait payer les professionnels parce qu'on leur propose des services dans l'immobilier, dans l'automobile. Mm-hmm. Et puis, on fait aussi de publicité. On est un média aujourd'hui publicitaire assez important.
Et justement, quelque part, vous êtes aussi... la taxe GAFA, elle s'applique à vous, en l'occurrence aussi.
On ne le sait pas encore.
Vous ne le savez pas encore?
On ne le sait pas encore parce qu'il y avait un peu de flou dans la définition, justement,
je croyais que si, en
du périmètre.
Mais...
En théorie, je vous dirais oui, même si je n'ai pas envie. Mais oui, a priori, on est éligible, mais... Ça reste à confirmer, comme d'autres groupes, comme par exemple Crito, par exemple. Il y a assez peu d'élus sur la France.
Oui.
Et malheureusement pour nous, on est un peu dans les dégâts collatéraux. Mais bon, si ça permet...
Vous avez fait demain, un calcul de combien ça pourrait vous coûter?
La règle qui va être appliquée, c'est 3% de chiffre d'affaires sur la partie publicitaire. Donc ça va probablement se chiffrer en plusieurs millions d'euros. Mais ça reste à confirmer. Ça va venir s'accumuler aux 55 millions d'impôts sur les sociétés que j'ai payés l'année dernière, qui est juste pour vous donner un ordre d'idée par rapport à mes homologues américains. L'un paye 16 millions, l'autre paye 187 000 euros. Voilà, donc moi je vais payer 55 millions d'euros. Est-ce qu'un groupe comme Le Bon Coin, qui est un grand groupe français, européen, qui est un grand groupe d'audience, est-ce que c'est normal qu'on paye 55 millions d'euros? Oui. Est-ce que mes homologues qui en payent 16, est-ce que c'est normal alors qu'ils font probablement 15 fois plus de chiffre d'affaires que moi? Je ne pense pas.
Donc c'est vraiment une concurrence déloyale?
Oui, je pense que ça s'appelle comme ça.
C'est donc vous soutenez en fait ces volontés de taxe GAFA, même
nous,
si
on soutient,
vous en êtes une victime collatérale, enfin plus que collatérale.
Nous, on soutient une volonté réglementaire mondiale de fiscaliser mieux les entreprises et les plateformes, parce qu'on a une vision éthique du rôle de l'entreprise, qui aujourd'hui la mission d'une entreprise, c'est de dépasser ses services et aussi de participer à une société plus intelligente, mieux financée. Les États aujourd'hui ont besoin d'argent et elles peuvent trouver cet argent et améliorer nos sociétés grâce à cet impôt. Nous, on est d'accord sur ça. Nous, on veut pas être mis, en effet, sur le bas-côté de la route parce que nos capacités de financement et de développement sont moindres parce que d'autres jouent pas le jeu. Voilà, donc on veut juste une règle qui s'applique à tous. Là, il se trouve que oui, je suis pas content parce que je suis un dégât collatéral, mais j'espère que l'OCDE va rapidement corriger cela.
Il y a toute la question de la publicité digitale, en fait, parce qu'on voit bien que Google a complètement aspiré la publicité digitale. Est-ce que vous arrivez à résister à ces géants du numérique ?
Oui, on a la chance d'être un de ceux qui résistent le mieux, même plus que ça, parce que nous, on est en croissance forte sur ce segment, principalement parce que Le Bon Coin, c'est un grand carrefour d'audience. On touche 40 millions de Français dans une année. On possède de la donnée sur le logement, comment se véhiculer, comment trouver un emploi, comment s'équiper. Donc cette donnée aujourd'hui, elle est unique. C'est une donnée transactionnelle. Mm-hmm. Donc on arrive justement à proposer à nos annonceurs des offres intelligentes qui peuvent challenger des campagnes sur ces acteurs-là.
Ouais.
Mais c'est vrai que globalement, pour les autres acteurs français qui n'ont pas accès à cette donnée ou qui n'ont pas le volume d'audience que nous avons, c'est très difficile. Ils souffrent. Parce que vous êtes face à des acteurs qui sont très innovants, qui en général qui ont des bons produits, mais qui ne jouent pas les mêmes règles du jeu que les vôtres.
Antoine Joutot, est-ce qu'il y a une chance, quelqu'un je n'oserais pas citer, mais qui était un personnage clé dans l'écosystème français, l'écosystème digital, qui me dit, en fait, ce serait formidable si on arrivait à ce que Le Bon Coin redevienne français. Il y a une possibilité ou pas?
Je ne sais pas ce que ça veut dire être français.
Actionnaire français, je pense.
Bah aujourd'hui, moi je considère qu'aujourd'hui, le groupe Bon Coin, c'est un acteur français majeur.
Ouais.
Parce que le management est français, parce qu'on paye nos impôts en France, et j'ai l'impression que ça va être ça qui va déterminer un peu la nationalité. Nos équipes sont en France, on a 1000 personnes employées, on a un impact sur l'automobile, sur l'immobilier, sur l'emploi, donc j'ai l'impression qu'on est quand même très imbriqué dans l'économie française. Alors après, on appartient à un groupe norvégien qui s'appelle Adevinta, qui est coté à Oslo pour le moment. Dedans, il y a des investisseurs français. Est-ce qu'un jour il sera majoritairement français? Moi je crois qu'aujourd'hui c'est surtout la trajectoire et l'impact qu'il produit sur l'économie française qui est important à mon avis.
Oui, et en même temps d'avoir un Norvégien avec une filiale qui est essentiellement française, c'est vrai qu'à un moment on peut se dire, bon, où est la logique?
Finalement il joue le jeu ce Norvégien, oui. Puisqu'il accepte d'avoir une grande partie de sa valeur qui est basée en France, sur le territoire français, qui a une grande croissance, et il accepte aussi de donner toutes les conditions pour qu'on contribue à l'économie française. Donc moi, je trouve que ce Norvégien est très français, est très européen.
Si je vous pose la question, c'est que la semaine prochaine, c'est donc le Digital Day.
Oui.
Donc c'est la fête des start-upers.
Je serai présent d'ailleurs.
Et vous serez
mardi.
Absolument, voilà. Il y a un dîner chez Emmanuel Macron. Il y avait des annonces qui vont être faites justement pour avoir des scale-up, c'est-à-dire que d'avoir plus des start-up, mais des scale-up et d'avoir des licornes. Vous êtes 4 fois plus qu'une, 7 fois plus qu'une licorne en l'occurrence. Or, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'à mon avis, ils aimeraient bien vous mettre en tête de liste, de montrer qu'on a le bon coin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes norvégien.
Je pense qu'on a vu, il y a juste dans le reportage d'avant, que Emmanuel Macron joue un rôle français, mais un rôle européen très important. Et que Le Bon Coin et Adevinta, auquel j'appartiens, est un groupe européen. Donc, finalement, on se sent français et européen. Je pense que c'est important qu'on soit bien soudés en tant qu'européens. Et que finalement, c'est important qu'il y ait des licornes en Europe, en France et en Europe.
Ouais.
Le Bon Coin, aujourd'hui, est un acteur digital important sur la France. Le groupe Adevinta est un acteur majeur européen, a fait son introduction en bourse en avril avec beaucoup de succès, 7 milliards aujourd'hui de valorisation boursière.
Votre valo, c'est quoi la vôtre, Le Bon Coin?
Les analystes disent que c'est 2/3 à 3/4 de la valeur de Adevinta aujourd'hui, donc c'est difficile à dire. Je suis un peu perdu dans les valorisations qui dépassent un peu les standards habituels. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise de croissance, donc on est valorisé fortement en termes de ratio par rapport à notre EBITDA, parce que nos chiffres de croissance sont toujours à deux chiffres, parce qu'on recrute beaucoup, parce qu'on s'attaque à plusieurs marchés en même temps, on attaque la mode, on attaque la location de vacances, on attaque l'automobile, l'immobilier. On est très ambitieux et très offensif. Voilà, donc on est valorisé fortement.
Il y a des annonces qui vont être faites. Il va y avoir la création d'Annexe 40, les 40 boîtes qu'il faut surveiller pour que justement elles émergent, qu'elles restent françaises. Peut-être la création de grands fonds d'investissement. À votre avis, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque à l'écosystème français pour avoir ces scale-up?
Parce qu'il manque, je pense, il manquait un peu d'argent. Même si aujourd'hui on voit beaucoup de levées de fonds, si on les compare avec les levées de fonds asiatiques ou américaines, il y a beaucoup d'écart encore dans les projets naissants, c'est-à-dire quand on commence à démarrer, les startups françaises, les premières amorces sont à quelques centaines de milliers d'euros, et on voit bien qu'aux États-Unis elles sont à plusieurs millions de dollars. Et donc pour démarrer, c'est des métiers technologiques assez compliqués. Il faut des développeurs, il faut des machineries, il faut des data scientists en général pour démarrer. Ça coûte très cher. Donc je pense qu'il y a une question d'argent, il y a une question de cadre législatif et réglementaire que j'ai cité tout à l'heure. Il faut protéger les startups européennes et françaises. Et je crois qu'il faut le faire concrètement et mettre des lois pour le faire. Alors, c'est pas aujourd'hui la tendance puisque la taxe GAFA vient contrer cela, mais clairement aujourd'hui, il faut donner un cadre réglementaire pour protéger ces startups. Et puis ensuite, c'est une qualité d'exécution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut pousser tous les projets possibles et inimaginables pour inventer les plateformes de demain. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a quatre plateformes américaines dominantes et deux ou trois plateformes asiatiques qu'il n'y a pas de place pour d'autres. Au contraire, il y a des places partout. On rencontre des startups tous les jours qui nous présentent des concepts extrêmement innovants. Mais elles manquent de moyens et elles manquent de protection.
Antoine Jouteau, quand même, pour conclure, parce que c'est un point important, Le Bon Coin aujourd'hui, c'est le deuxième site d'emploi privé et de recherche le plus consulté. Est-ce que vous voyez une évolution justement dans cette recherche d'emploi ou pas? Vous avez vu, là, il y a différents chiffres qui sont sortis, il y a eu les questions de l'apprentissage, je ne sais pas, est-ce que vous vous mettez sur l'apprentissage, les demandes d'apprentissage? Est-ce que du coup vous faites évoluer votre
offre? Oui, c'est aujourd'hui notre préoccupation majeure. Alors on a été très concentré sur l'automobile puisqu'on réalise une acquisition, mais évidemment l'emploi est un fil rouge pour nous. Oui. On est concentré justement sur l'amélioration de l'expérience pour les candidats et les recruteurs. On est concentré plutôt sur l'emploi non cadre, sur lesquels on grandit très fortement. Et ensuite, on se pose la question notamment de la formation professionnelle, où on voit bien les organismes de formation aujourd'hui commencent à diffuser leurs annonces sur la rubrique emploi, qui n'est pas le lieu pour le faire, parce que c'est destiné aux vraies offres d'emploi. Donc on réfléchit en effet à créer un univers dédié. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va réussir à le faire, mais probablement au cours de l'année 2020. Pour justement permettre de rassembler à la fois une proposition de valeur de formation, hein, c'est-à-dire pour les gens qui veulent souhaiter orienter leur carrière différemment et trouver les bonnes formations, mais aussi trouver l'emploi correspondant.
Vous pourriez faire un Argus des formations?
Je ne sais pas si ça s'appelait l'Argus des formations, mais c'est vrai que je pense qu'on va beaucoup utiliser le terme en tout cas. Mais en tout cas, proposer une offre 360 sur l'emploi permettant de se former tout au long de la vie, plus derrière trouver l'offre correspondante, oui, avec plaisir et avec beaucoup d'ambition, puisqu'on a mis pas mal d'équipes techniques sur le sujet depuis.
Il y a un site américain aussi qui cartonne qui s'appelle Indeed, qui est très présent justement sur les offres milieu de gamme, si j'ose dire. Oui. Est-ce que c'est pour vous, c'est votre principal concurrent?
Oui, et comme d'autres, parce qu'il y a beaucoup, vous savez que c'est un marché très fragmenté, le marché de l'emploi, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de plateformes, pas de leaders strict sur ces marchés. C'est des plateformes comme celles que vous avez citées qui investissent beaucoup d'argent sur leur marché. Nous aussi, nous on vient avec un ADN que je pense est assez différent.
On sent que la bataille elle va se passer là sur ce marché.
La bataille de ce marché là, c'est une bataille de puissance. Oui. Nous on a une énorme puissance d'audience puisqu'on parle de les 2,5 millions de visiteurs sur l'emploi, mais on parle des 29-30 millions de Français qui nous consultent tous les mois. C'est une bataille technologique parce que derrière on parle d'algorithmes de matching, être capable de rassembler l'offre et la demande enfin, d'être capable de parler de proximité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Français sont pas encore très mobiles, ils cherchent un emploi dans un rayon de 30 km autour d'eux et ils ne veulent pas bouger. Bon, l'ADN du Bon Coin, c'est quand même la géolocalisation. Voilà, donc je pense qu'on a tous les atouts pour progresser sur ce marché et nous étendre, mais ça va nécessiter du temps et aussi des investissements technologiques très importants.
Voilà, merci beaucoup Antoine Jouteau. On a compris qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de projets, mais beaucoup pour l'instant, vous êtes focalisé sur l'Argus signature, donc dans quelques semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était le patron du Bon Coin. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve bien sûr demain à 8h15, 12h, 13h. D'ici là, bonne journée.